Radio Classique, les spécialistes.
Pratiquement 7h40 sur Radio Classique, nous sommes mercredi, et le mercredi, vous le savez, dans les spécialistes et sur Radio Classique, c'est cinéma avec Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel.
Bonjour Renaud.
Trois films dans votre besace. Hein. On débute par un long métrage américain signé Ari Aster, Beau is Afraid, et dans la bande-annonce de ce film, un morceau qui a marqué l'adolescence de Samuel, et peut-être la vôtre également. Écoutez.
Was it early morning yesterday? I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on.
Yeah. Vous avez reconnu Supertramp, Goodbye Stranger, Samuel, Beau is Afraid, c'est plutôt Goodbye Mother, hein.
Ah oui, clairement. Alors, Renaud parlait d'adolescent, de musique qui a marqué notre adolescence.
Dès que je peux passer Supertramp, je le passe.
Hein. Voilà. Bon, si vous voulez, je suis pas là pour parler de ma vie, mais clairement, mon adolescence a été moins compliquée que celle du protagoniste principal de Beau is Afraid. C'est peu de le dire. Car notre protagoniste principal, qui n'est plus adolescent, hein, dans Beau is Afraid, mais c'est un adulte.
Joaquin Phoenix, quand
voilà,
même.
Voilà, Joaquin Phoenix.
On va en parler.
Et lui est absolument totalement névrosé. Il a un problème majeur dans la vie, qui est peut-être celui de beaucoup d'adolescents et d'adultes. Il doit rejoindre sa mère, car sa mère est encore vivante, mais il n'arrive pas justement à accomplir le voyage. L'avion est annulé, et la grande affaire de sa vie, la grande affaire du film, c'est que ce névrosé, qui, chez son psy, explique qu'il a un objectif dans sa vie, c'est-à-dire de tuer sa mère, n'arrive pas à la rejoindre.
Il y a une bonne ambiance dans la famille.
Ah, il y a une ambiance, on va dire, saumâtre, et on va dire, nous parlons d'un individu profondément perturbé, c'est le mot qu'on puisse dire.
Mais pour vous, c'est un très bon film.
Oui, c'est un très bon film. Alors, parce que nous sommes face, en la personne d'Ari Aster, à un très grand metteur en scène. C'est pas si fréquent que ça d'avoir un réalisateur qui soit visuellement aussi inspiré. Ari Aster, c'est le réalisateur de deux films de genre, que donc peut-être une partie de nos auditeurs connaissent, à savoir Midsommar et Hereditary, qui étaient déjà des films qui avaient comme toile de fond des relations familiales ou de couple compliquées, mais qui apparaîtraient presque simples comparées à ce qui nous est mis en scène dans Beau is Afraid. Ari Aster, c'est également quelqu'un qui a été adoubé par Martin Scorsese, qui, à chaque film d'Ari Aster, dit « Attendez, ça c'est la nouvelle génération du cinéma américain », y compris d'ailleurs son nouveau film Beau is Afraid.
Il y a un petit bémol quand même, vous me dites, le film dure 3 heures et c'est un tantinet long.
Bah, c'est un problème, je trouve, du cinéma contemporain, du cinéma américain. Ce qui est surprenant, c'est que le cinéma américain, c'est un cinéma qui est souvent rigoureusement produit. Or, ce film de 3 heures aurait été bien supérieur dans une durée d'1h52.
Alors, avec notamment Joaquin Phoenix, c'est l'un des comédiens les plus intéressants de sa génération. Il est devenu l'espèce d'anti-héros par excellence du cinéma américain, Samuel.
Oui, c'est ce qui me frappe. C'est qu'aujourd'hui, il est presque devenu le thermomètre des névroses américaines. Je penserais bien évidemment à deux films. Her de Spike Jonze, qui dansait déjà l'intelligence artificielle, et donc c'était quelqu'un qui tombait amoureux d'une voix synthétique dans Her. Je pense évidemment à Joker, de Todd Phillips, où véritablement c'est un film qui auscultait à travers le personnage du méchant de Batman une atmosphère quasi insurrectionnelle, pas seulement aux États-Unis, mais on va dire le bouillonnement négatif de nos sociétés occidentales. Et de nouveau avec Beau is Afraid, qui, on va dire, une version magnifiée, fantasmagorique, cauchemardesque de Portnoy et son complexe de Philip Roth. Alors à chaque fois, il est véritablement l'indicateur de ce qui ne va pas, de ce qui est malade dans la société américaine. Et c'est très très étonnant, quoi. Je veux dire, il y a peu de comédiens, je trouve, qui soient capables d'exprimer cet air du temps.
Alors on va changer d'ambiance et de pays. Un film qui retrace la vie d'un célèbre peintre japonais, La Vague, bien sûr, Okuzai. C'est un film à voir.
On va dire, c'est une curiosité qui me fait réaliser à quel point il y a peu de très bons films sur des peintres.
Ouais.
Apparemment, je veux dire, C'est un défi majeur de mettre en scène la biographie filmée d'un peintre. Il m'en apparaît comme ça une grande réussite, La vie passionnée de Vincent Van Gogh,
ouais, c'est
de
ce
Vincent Minnelli avec Kirk Douglas et ouais. Anthony Quinn. Et derrière ça, c'est compliqué de mettre la peinture au cinéma.
Troisième choix, Samuel, Burning Days, qui, contrairement à ce que l'on peut croire, est un film turc. Alors, c'est un western qui se passe en Cappadoce, c'est ça ?
Ah, et c'est exactement ça. C'est un juge qui arrive, je dirais, en Cappadoce, Anatolie, dans une toute petite ville, qui est sujette à la fois à une profonde sécheresse, il y a plus d'eau, une corruption, et puis comme on parlait de western, c'est l'idée justement de l'étranger qui arrive dans une ville, et les deux sont antithétiques et n'auraient jamais dû se rencontrer. Et ce que découvre, je veux dire, ce à quoi est confronté ce juge, c'est à une affaire de viol. Il découvre aussi des habitants qui lui ne comprend rien. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas évident, je veux dire, une partie de ces habitants, les hommes, nous sommes en Turquie. Leur passe-temps préféré, c'est d'être en pick-up truck pour chasser du sanglier. Ce n'est pas l'occupation de tout le monde. Mais fondamentalement, ce que ce western en Cappadoce raconte, c'est la désolation de la Turquie d'Erdogan.
Oui, c'est un film politique.
Absolument, c'est un film politique. C'est la manière dont, justement, une partie de la Turquie est en proie à une paupérisation croissante, est abandonnée par son pouvoir. Et justement, la corruption qui règne dans cette ville, c'est la corruption de tout un pays.
Samuel, un mot sur Harry Belafonte, qu'on entend grand crooner, mais aussi grand acteur. Hein. Il a tourné, excusez du peu, avec Otto Preminger, Robert Altman, Sidney Poitier, Spike Lee. C'est pas rien.
Absolument, c'est pas rien. Je retiendrai, il y a deux films comme ça d'Harry Belafonte qui apparaissent immédiatement en mémoire. Le monde, la chair et le diable de Ronald McDougall, qui est un film de science-fiction où, justement, dans un monde apocalyptique où tout a été détruit, restait quelques hommes, dont un qui était noir. Donc c'était véritablement, bien évidemment, une métaphore du racisme dans les années 1960. Un autre film qui est un immense chef-d'œuvre, qui s'appelle Le coup de l'escalier de Robert Wise, qui était véritablement un film noir, un film policier, qui était en phase complète avec le mouvement des droits civiques, à savoir une histoire extraordinaire où Harry Belafonte incarnait un chanteur qui devenait un cambrioleur et qui devait faire équipe avec quelqu'un qui était profondément raciste.
Ouais.
Incarné par Robert Ryan, d'ailleurs, qui, ironie du sort, était un militant démocrate et profondément anti-raciste dans la ville. Et cet alliage-là, d'un noir et d'un raciste, faisait échouer le cambriolage. C'était un film absolument extraordinaire, et c'était l'exemple même de l'utilisation du cinéma de genre à des fins idéologiques, et des fins hautement noble. Et véritablement, c'est l'un des plus grands films noirs de l'histoire du cinéma. La manière dont on désignait ce cinéma policier tourné en noir et blanc. Et véritablement, on l'oublie toujours assez. Harry Belafonte était l'exemple, l'incarnation même d'un acteur à l'écran qui n'a jamais fait de séparation entre son art et son engagement politique.
Vous l'aviez rencontré?
Je l'ai rencontré, absolument. Il y avait ce qui me frappait et qui était peu courant chez un homme de cet acabit. Il était extraordinairement enthousiaste, toujours obsédé par ses combats politiques. Et c'est quelqu'un qui, lorsqu'il constatait que vous connaissiez sa carrière, vous laissait son numéro de téléphone, son mail et vous disait « écrivez-moi ».
Ben c'est quand même pas mal.
Ah, c'est pas mal.
Et comme vous connaissiez sa carrière, eh bien vous aviez récupéré son téléphone. Merci Samuel.
Merci.
Le monsieur cinéma de Radio Classique, Samuel Blumenfeld, et les sorties de ce mercredi 26 avril. Dans un instant, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre. Augustin qui, ce matin, s'intéresse à un ancien ministre de la Culture décédé hier, François Léotard.